Direct en jeu, la radio insolite sur la route de notre festival international de géographie de Saint-Denis-Vosges qui commence vendredi. Et là, attention, j'ai fait une pause sur la route et je suis, on va dire, avec une illustre qui est dans une maison des illustres. Bonjour, à qui ai-je le plaisir ?
Je m'appelle Sylvie Morel et je suis directrice des maisons de Louis Pasteur, de Dole et d'Arbois.
Louis Pasteur, ça me dit quelque chose. C'est un artiste peintre, si je ne dis pas de bêtises.
Ben oui, effectivement, dans sa jeunesse, il a beaucoup peint des pastels, des dessins au fusain. Il s'est même initié à la lithographie. Et sans doute qu'il put rêver quelque temps d'être peintre, mais il a été rattrapé par la science et la recherche scientifique.
Alors, j'ai bien entendu que vous avez dit les maisons Louis Pasteur. Pourquoi on dit les maisons ?
Il y en a deux dans le Jura. Pasteur est né à Dole donc en 1822 et sa maison natale est ouverte au public depuis 1923, une maison qu'il a lui-même inaugurée en 1883. Mais par la suite, suivant ses parents, Pasteur s'est installé ainsi que toute sa famille à Arbois, où là le père a acheté une autre tannerie et c'est bien cette maison dont Pasteur a hérité et qu'il a transformée par la suite en maison de vacances.
Je vais faire un raccourci très conséquent. Pasteur, c'est le vaccin de la rage, c'est tout.
Pour les Français, c'est le vaccin contre la rage, effectivement. Pour autant, c'est une de ses dernières découvertes, puisque ce vaccin a été découvert en 1885, alors qu'il avait déjà 63 ans. Pour les Anglais, c'est la pasteurisation, qu'il a découvert à 43 ans. Mais finalement, les travaux les plus importants de Pasteur, ceux qui ont vraiment, véritablement sauvé le plus de vies humaines, ce sont les travaux sur l'hygiène. Et ce sont ceux-là qu'on oublie souvent.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette envie que vous avez dans ce domaine-là ?
J'ai pas compris la question.
Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il ait voulu, comment dire, être chercheur, faire pas mal de choses ?
Pasteur a hésité quand il était étudiant. Très clairement, comme son père, il voulait changer de conditions sociales et il hésitait entre devenir ingénieur des ponts et chaussées, qui était vraiment un métier qui apportait beaucoup de notabilité, et professeur d'université. C'est une rencontre qui a sans doute décidé de sa vocation, la rencontre avec Ballard, qui était un chimiste et qui l'a initié à la recherche. C'est un chimiste très enthousiaste qui avait vraiment une envie de transmission et qui, par la suite, va le prendre comme assistant de recherche dans son laboratoire.
Pasteur est connu dans le monde entier. C'est assez impressionnant quand même.
Oui, il y a un côté universel chez Louis Pasteur. De son vivant, déjà, Pasteur entretient énormément de liens avec les scientifiques du monde entier. Il va intéresser beaucoup de professionnels de l'agroalimentaire et particulièrement les brasseurs qui vont évidemment collaborer avec lui et quelque part lui rendre hommage régulièrement. Beaucoup d'universités américaines encore aujourd'hui se réclament de Pasteur alors que Pasteur n'a jamais mis le pied aux États-Unis. C'est sans doute la pertinence de son esprit scientifique qui fait la différence. Cette façon qu'il a eue de savoir déjà communiquer autour de ses découvertes. Pasteur, c'était un très très grand communicant, mais aussi de s'associer à d'autres scientifiques, des médecins, des biologistes, des géologues, des vétérinaires, et ensemble de travailler dans un but commun qui sera celui de l'Institut Pasteur, qu'il va créer en 1888, c'est-à-dire faire reculer les maladies contagieuses de l'homme.
J'ai l'impression qu'il était un peu d'avant-garde quand même.
Oui, c'est quelqu'un qui, à mon sens, le génie de Pasteur pour moi, c'est vraiment son esprit de synthèse. Comprendre, alors qu'il travaille sur les cristaux, puis sur les verres à soie, puis sur les vins, etc., que derrière tout ça, derrière les apparences, derrière la réalité, il y a quelque chose de commun, et ce commun est invisible, c'est le monde microbien. Et il fait vraiment une révolution, on parle de révolution pasteurienne pour qualifier l'importance des travaux de Pasteur sur son époque. Et cette révolution pasteurienne, elle continue aujourd'hui. Par le biais de la révolution du microbiote, pour ne citer que celle-ci.
Il a un point commun avec le cinéma, puisqu'on va fêter dans une dizaine de jours les 130 ans du cinématographe. Et lui-même, comment dire, Pasteur, est décédé en 1895, donc il y a 130 ans. Est-ce que c'était l'époque qui faisait qu'on pouvait faire toutes ces découvertes assez conséquentes?
L'époque a été favorable et Pasteur a été un artisan finalement de ces découvertes parce qu'il va faire en sorte déjà de réformer l'enseignement universitaire de façon à y intégrer les travaux pratiques. Pasteur a compris que le scientifique doit être en lien avec le monde industriel qui est en pleine évolution hein, au 19e siècle et il va être un des premiers à créer ce qu'on appelle aujourd'hui des start-up. Donc, des start-up, alors lui, il va en faire pour les vaccins, pour différents domaines, pour les bières hein, en particulier. Ça, c'est quelque chose que Pasteur a compris très rapidement. Et j'ai oublié la question.
Direct en jeu, les joies du direct, vous savez qu'on ne coupe jamais, c'est ça qui est génial, parce que c'est tout sincère, c'est authentique et tout, il n'y a pas de problème. Non, je disais quand même, d'une part, il était un peu d'avant-garde, et puis c'est vrai quand même que à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait plein de choses qui se passaient au 19e siècle.
Oui, beaucoup de choses se passent, et Pasteur est très curieux. Oui, alors forcément, il est d'avant-garde parce qu'il va s'intéresser à tout ce qui est nouveau. Dans sa jeunesse, il va s'intéresser, par exemple, aux dinosaures. On est en train de les découvrir. On les nommera en 1842. Il a 20 ans à ce moment-là. Donc, il hésite un petit peu. D'ailleurs, un de ses camarades, Marcou, va plonger complètement dans cette discipline. Pasteur, lui, s'orientera plutôt vers les cristaux et les microbes. Mais il est vraiment en alerte. Il suit toutes les expositions universelles pour voir ce qui se fait de nouveau. Il va s'intéresser à des domaines scientifiques qui s'ouvrent, à de nouvelles disciplines, en particulier la psychiatrie. Il sera un ami de Jean-Martin Charcot. Il va s'interroger avec Charcot et se demander si finalement la rage, dont on ne voit pas encore hein, le virus, ne serait pas finalement une maladie du dérèglement du cerveau, hein, de type neurologique pur, sans micro-organismes. Et ils vont mener comme ça pas mal d'expériences ensemble. Charcot, va imaginer que peut-être que le vaccin contre la rage peut éviter que les malades développent de l'épilepsie. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture tous azimuts hein, et interdisciplinaire. Pasteur sait sortir de sa boîte. Voilà. Je crois que c'est un homme qui détestait les boîtes. Et il a un esprit de synthèse qui est très puissant. Il sait s'entourer. Et en ça, vraiment, il va créer une équipe qui va vraiment être solide et qui va promouvoir hein, aussi les découvertes de Pasteur dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que tous les assistants de Pasteur sont, à un moment ou à un autre, partis à l'étranger pour créer un institut Pasteur ou un centre anti-arabique. Donc ça, évidemment, ça a participé aussi à cet esprit d'avant-garde. Et Pasteur a été mondialisé avant la mondialisation.
Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'il n'a pas eu des amis.
Ah, ça, voilà, ça c'est effectivement le problème quand on mène des révolutions, c'est qu'on va bousculer les croyances hein, de tout un chacun, et puis on va bousculer aussi peut-être parfois les corps constitués. Pasteur va affronter deux polémiques. La première, qui va durer 20 ans, sera une polémique autour de la génération spontanée. C'était un débat qui agitait le monde scientifique, mais alors là, qui va vraiment le secouer au 19e siècle, au même titre que le réchauffement climatique a secoué le monde scientifique au 20e. Pasteur, au bout de 20 ans de polémique, va finir par s'en sortir, et l'Académie des sciences reconnaîtra en 1878 que sa théorie des germes explique mieux le monde qui nous entoure que la génération spontanée. Et la seconde polémique que Pasteur va affronter, c'est une polémique avec le corps médical autour de l'intérêt de l'introduction de l'hygiène dans les hôpitaux. Pasteur, oui, maintenant, ce que vous
semblez... L'intérêt de l'hygiène, je trouve ça fascinant.
Oui, alors on oublie, hein, c'est ça l'esprit humain, c'est qu'on est très myope hein, sur ce qui se passe en histoire. Hein. On ne voit pas grand-chose et on oublie beaucoup de choses. Mais au 19e siècle, aller à l'hôpital, enfin, par exemple une femme enceinte qui se rendait à l'hôpital pour accoucher, elle n'avait pas de doute, hein, elle avait la certitude d'en ressortir les pieds devant. La mortalité à l'hôpital par infection était juste décapante, hein, hallucinante. Et pour autant, on ne faisait pas forcément le rapprochement entre les pratiques et la mortalité. Et Pasteur, lui, va isoler le staphylocoque, le streptocoque, le pneumocoque, le trio gagnant, hein, les trois cousins, là, qui sont, il va montrer qu'ils sont responsables de la majorité des infections qui se développent à l'hôpital. Mais pire que ça, il va montrer que ces microbes se promènent librement sur les mains des médecins. Alors, il va demander, très officiellement, devant l'Académie de médecine, dans laquelle il est entré grâce à son ami Claude Bernard, de changer les pratiques. Bon, autant vous dire que son discours d'introduction à l'Académie de médecine n'a pas été applaudi par tout le monde. Et par la suite, il y a même un médecin qui l'a provoqué en duel. Donc, vous voyez un petit peu l'état de la polémique, hein. C'était vraiment très fort. Et le corps médical, où il y avait encore beaucoup d'officiers de santé qui avaient... Voilà, qui pratiquait plutôt l'art que la science, qui avait tendance de couper dans le vif du sujet, et ça tombait bien, parce qu'il y a eu pas mal de guerres, hein, donc aussi beaucoup d'amputations, fatalement. La médecine faisait beaucoup de dégâts. Hein, elle sauvait quelques personnes, mais peu, hein, finalement. Et par la suite, quand enfin les règles d'hygiène se sont imposées dans les hôpitaux, on va dire à la fin du 19e, début 20e, eh bien, évidemment, les résultats ne se sont pas fait attendre, et déjà, ne serait-ce que la mortalité infantile, elle a baissé. Les personnes qui étaient les plus touchées par ces infections étaient sans conteste les enfants après la naissance, et puis les femmes qui accouchaient.
Ce qui n'a pas empêché, il y a 5 ans déjà, ou 5 ans seulement, d'avoir du Covid.
Oui, et c'est pas fini. Les chercheurs sont formels. La prochaine pandémie, la question n'est pas de savoir s'il y aura une prochaine pandémie, mais quand. Voilà, hein, c'est ça la vraie question. Pendant le Covid, on a appliqué les recherches, les méthodes pasteuriennes. Pasteur, la plus grande démonstration qu'il ait faite, mais qui a été oubliée, c'est que la meilleure solution pour lutter contre les épidémies, contre les maladies contagieuses, ce n'est pas la recherche vaccinale. La recherche vaccinale, elle est longue, elle est laborieuse, elle nécessite un personnel qualifié, coûteux. Et puis, c'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. On a vu pour le sida, la trithérapie n'est quand même pas la panacée. Et puis, elle a été longue à mettre en place. Donc, la meilleure solution en cas d'urgence, c'est d'appliquer les règles d'hygiène, les règles de quarantaine, les règles de distanciation physique strictes. Et ce sont ces mesures-là qui doivent être appliquées en priorité, particulièrement en cas de pandémie. Donc, je le dis, gardez vos masques, gardez vos gels hydroalcooliques, on en aura sans doute besoin dans moins de 10 ans.
Voilà une pensée positive. Comment est-ce qu'on fait pour venir visiter les maisons Pasteur ?
On se gare déjà. Alors à Dole, on stationne au bord du canal des Tanneurs, c'est très joli, il y a un grand parking, et puis on traverse donc les différents canaux pour atteindre la maison natale qui est au bord du canal des Tanneurs. Et la maison est ouverte, les deux maisons sont ouvertes tous les jours, du début des vacances de février jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Et puis elles ont une petite pause pour les individuels là, pendant l'hiver, parce que c'est vrai que là, c'est la rentrée, donc tout le monde travaille. Et on rouvre pour les vacances de Noël. Voilà. Mais autrement, pour les groupes, la visite est possible toute l'année sur réservation.
Il y a un site internet ?
Oui, le site internet, c'est terredelouispasteur.fr.
Merci.
Merci à vous.